que je fasse une chanson. Fait que ça part. Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y a personne qui peut chauffer. Le Carola bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins. Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille chaque lundi à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les autrices et les auteurs de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Bonjour à tous et à toutes, ici Madame Desmolles à l'animation de cette nouvelle édition du jeudi de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Merci d'être à l'écoute de cette émission culturelle du retour à la maison. Aujourd'hui, ce dont on parle, eh bien, comme c'est jeudi, Alex Télamarche viendra nous jaser de littérature. C'est la langue française qui sera au cœur de sa chronique aujourd'hui. Je vous parle du tout nouveau numéro d'Impact Campus. Émilie Rioux sera là pour Coup de théâtre afin que vous soyez bien au courant de toutes les actualité théâtrale de la ville de Québec. Et laissez-moi vous dire que ces temps-ci, ben, y en a de l'actualité en théâtre. C'est une grosse semaine pour la ville de Québec, côté théâtre. On parlera aussi à Jenny de Production culturelle qui présente ce soir un spectacle bien spécial intitulé Le temps d'une toune qui mettra en vedette notamment Pretty Smile, Marc Étincelle et Sandra Contour. C'est à la source de la Martinière. Alors, soyez là vers 16h45. Jenny sera avec nous pour discuter de tout ça. Ce jeudi.
Ah, chérie, j'arrive.
Quelques nouveautés musicales seront jouées aussi tout spécialement pour vous. Et là, qui dit 1er décembre, dit début des tounes de Noël? On sait pas trop. Bon, moi, je ne suis pas friande des tounes de Noël. Je les tolère dans la semaine qui précède les festivités. Mais un petit vinyle d'Elvis de temps en temps, là, ça peut nous mettre dans l'ambiance. Ce n'est clairement pas du Elvis Presley que vous entendrez puisque notre slogan, c'est « Écoute local », mais plutôt du Gap Pocket qui nous offrait aujourd'hui « Il est né », un titre tout spécial de Noël où Gab, en tant qu'ange Gabriel, aborde ce qui a bien pu se passer, oui, dans les 9 mois précédant la naissance de celui qui est né le 24 décembre, avec une petite touche féministe où on se rappelle que le corps de Marie, elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait avec. Alors, pas en exclusivité, là, quoi, mais pour la toute première fois sur nos ondes, voici aujourd'hui « Il est né » de Gab Pocket sur les ondes de Chiz 94.3.
De neige, j'accompagne grand-maman à la messe de Noël. Le 24 décembre, que vois-je près de l'autel? Dans la crèche vivante, celle qui incarne la Vierge, lui ressemble à s'y méprendre. Sur son sein voilà l'enfant, ce nourrisson tout puissant. Je contemple la lumière de l'étoile incandescente. Au-dessus de la crèche, une clarté aveuglante. Et soudainement dans ma tête, j'entends cette voix qui chante. Aujourd'hui il est né, mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela plus de 2000 ans. Les yeux yeux fermés en prière pour faire plaisir à Mère Grand, qui en a passé des nuits blanches rêvant Jésus dans sa chambre, celle qui incarne la Vierge. Mon Dieu, qu'elle lui ressemble. J'aimerais tant être un ange dans cette crèche vivante. C'est elle, je la reconnais. Elle vient souvent au centre d'achat. Je suis Père Noël depuis la fin de novembre. Pendant que le prêtre dévore ce corps et ce sang, tout s'étend dans ma tête. J'entends cette voix qui chante. Aujourd'hui il est né, mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela plus de 2000 ans. Est-ce que l'un des bergers était en fait son amant, ou l'un de ces rois sorciers apportant l'or et l'encens? Mais est-ce si important de qui ce bébé descend? C'est l'affaire de maman, c'est son corps, c'est son sang. J'allais allumer un cierge, une petite flamme qui danse, juste à côté de l'autel, devant la crèche vivante. Celle qui incarne la Vierge lui ressemble à s'y méprendre, et d'une voix qui tremble, en secret je lui demande. Aujourd'hui il est né, mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela plus de 2000 ans. Aujourd'hui il est né, mais que s'est-il passé 9 mois avant le premier Noël? Il y a de cela j'ai mis mes ailes. Oui. Je viens de l'au-delà, je suis l'ange Gabriel. Et toi, tu étais là.
Et c'était Gab Paquette avec Aujourd'hui, il est né sur les ondes de Schiste 94.3 en ce 1er décembre. On lance ce calendrier de l'Avent. D'autres surprises de Gab Paquette nous attendent, notamment le 5 décembre, où on nous promet une autre version, enfin, à la Paquette d'une chanson classique de Noël. Et le 8, on peut s'attendre à un clip. Peut-être, c'est ce que nous laisse croire l'emoji de pellicule cinéma. Donc, à suivre pour le calendrier de l'Avent de Gab Paquette. On se demande si d'autres artistes vont lui emboîter le pas. Ce sera à voir, mais il y a quand même des artistes qui nous font d'autres cadeaux. C'est notamment le cas de Piss from Pumpkin. C'est un groupe post-punk de Montréal. Et là, pour me faire pardonner, pour celles et ceux qui n'aiment pas les tunes de Noël, ben là, on va vous brasser la cage un peu. C'est le titre Cotton Candy que je vais vous faire entendre. Le trio lance depuis juillet, en fait, nous a proposé 3 singles. Et avec l'album qui porte le même nom, qui est paru hier, j'ajoute ça dans mes tunes à écouter, je l'ai déjà partagé allègrement. J'ai répandu la bonne nouvelle autour de moi. Piss for Pumpkin, je crois que c'est un titre que vous aurez envie de découvrir. Voici Cotton Candy sur les ondes de Schiste 94.3.
snow falls and the world's ending. I am brave, but I'm braver with you. Eyes closed and we're ascending.
Vous venez d'entendre Cotton Candy, un tout nouveau titre de Piss for Pumpkin, ce groupe post-punk de Montréal dont l'album est paru juste hier. Dans un tout autre créneau, je vous l'annonçais en début d'émission, on va parler de théâtre. C'est une semaine chargée côté théâtral. Les adeptes s'en réjouiront à Québec. Et pour nous en parler, Émilie Rioux et sa chronique Coup de théâtre à Chérie J'arrive. Allô, Émilie!
Oui, au bout du fil aujourd'hui, c'est comme un coup de théâtre en même temps qu'un coup de fièvre. Hein? C'est la saison!
Coup de théâtre, coup de fièvre, coup de fil, tu vois?
Voilà! De la suite dans les idées. Bon, néanmoins, ça ne m'empêchera pas de vous parler de deux pièces que j'ai vues hier. Donc, deux pièces dans la même soirée. Je me suis tapé un beau petit marathon.
Ouais.
Parce que c'était possible hier à cause des... En fait, grâce plutôt au 5 à 7 de l'aborder. Tu sais donc, Mandemol, c'est une nouvelle initiative là, qui a commencé l'an passé puis qui a été soulignée récemment par l'Association québécoise des critiques de théâtre, du théâtre en 5 à 7, où est-ce qu'on peut arriver, prendre une petite bière, avoir une petite bouchée à manger.
Ouais.
Ça nous permet de voir le théâtre de manière un petit peu moins pognée, disons. Mm-hmm.
Puis c'est quand même agréable pour les gens qui veulent rentrer à la maison en évitant le trafic. Là. Tu sors de la job, tu t'en vas au théâtre, tu rentres chez vous plus tard. T'sais.
Exact. Et ça nous permet donc de se voir dans un autre contexte complètement. Et la pièce qui est à l'affiche depuis cette semaine s'y prête très bien. Il s'agit de « S'aimer bien pacté ». C'est un texte de l'autrice Christina Moschini, qui est anciennement originaire de Québec, maintenant installée en Mauricie, dans le coin de Saint-Élie-de-Caxton. On en reparlera. Oui. Et c'est interprété par Ariel Charest, celle que vous connaissez peut-être grâce à ses fameux lip-sync, mais qui est une comédienne de Québec chevronnée d'abord et avant tout. Semi impacté, ça a d'abord été fait en radio-théâtre en 2020-2021. Oh, ouais. La Bordée avait lancé ça en forme de radio-théâtre, c'est-à-dire que Ariel Charest avait enregistré le texte. Et c'était disponible donc pour toutes les oreilles. Et j'avais vraiment, vraiment apprécié cette relecture-là. Alors, j'étais vraiment contente de voir qu'il y avait une version scénique qui allait être proposée. Andréane, je ne sais pas si tu connais un peu l'historique de l'auteur.
Je ne connais pas son historique, mais de par ce que j'ai cru comprendre dans la description qui en faisait l'aborder, comme ça traite de l'alcool, notamment de la relation des femmes avec l'alcool, j'ai l'impression que ça touche l'autrice directement ou indirectement.
Ouais, c'est un texte assez autobiographique, okay. En fait, qui est très personnel. Bon, pas 100%, mais quand même, il y a plusieurs éléments autobiographiques dans le texte qui est inspiré de la vie et plutôt de la relation avec l'alcool qu'avait Christina Moschini avant d'être sobre, en fait, avant de déménager hors de la ville de Québec pour entamer un processus qui allait l'amener vers la sobriété, qui est un sujet qu'elle porte maintenant là, de manière assez quotidienne dans ses écrits, de manière générale.
Okay.
C'est un texte qui est un peu comme l'autrice, c'est-à-dire un chou il y a trash. C'est pas un texte où on va embellir les choses. On dépeint ça tel que c'est. C'est un petit peu comme l'espèce de gros néon qui allume à 3h du matin dans les bars. Et c'est un peu de cette manière-là qu'on va voir à froid la relation amoureuse un peu toxique avec l'alcool et ses effets enivrants que le personnage joué par Ariel Charest veut finalement nous expliquer, nous démontrer, nous raconter. Et ça, c'est sans compter évidemment que nous-mêmes, on puisse s'y identifier. Hein? Je veux dire, qui ne s'est pas dit un jour, un lendemain de brosse, j'arrête de boire.
Ouais, c'est fini, plus jamais.
On finit immanquablement par recommencer. Donc, peu importe notre relation avec l'alcool, qu'elle soit présente ou non, qu'elle soit saine ou pas, je pense qu'on va tous être capables de s'associer à ce personnage-là qui est très, très humain. C'est un texte qui est très poétique. Donc, c'est peut-être un élément que, pour moi, était un peu dangereux. Peut-être que j'ai moins apprécié, comment dire. Il y a une surabondance de métaphores, surabondance de figures de style dans la manière dont Christina Moschini écrit. Et ça, ça se peut vraiment bien à l'écrit et c'est plus difficile à rendre à l'oral hein, lorsqu'on a plusieurs figures de style métaphores, de grandes images fortes. Il y a de quoi rendre le texte un petit peu plus lourd, malgré que ça le rende très coloré et vivant. Alors, parfois, je t'avouerais que j'étais un petit peu mitraillé par ses figures de style. Il y avait trop d'images dans ma tête.
Ouais, une accumulation de figures de style.
Ouais, ça arrivait tellement vite que j'avais pas le temps de toutes les voir. Mais tu sais, le côté positif de tout ça, c'est que Ariel Charest est assez talentueuse et assez punchée et honnête dans son jeu pour que ça passe bien. Alors, c'est un bien pour un mal. C'est pas tout à fait un bémol, mais je pense que c'est un des éléments clés de l'écriture de Christina Moschini. Ce sont ces fameuses figures de style-là abondantes. Et Ariel a réussi à bien les rendre de manière solide par la vérité et la vulnérabilité vraiment de son personnage. Je pense que les mots, les expressions colorées, le ton irrévérencieux de Semi Impacté nous reste en tête et fait en sorte qu'on arrive nous-mêmes à se questionner fondamentalement sur notre lien avec les effets enivrants de l'alcool. Et je pense que c'est un des objectifs de ce texte-là, à l'approche des fêtes où on aura cette fameuse pression sociale de boire de manière récréative, ben ça sera peut-être une occasion de se confronter et aux thèmes qui sont présentés dans le texte en 5 étapes à l'aborder. Et j'ai envie de vous dire, c'est à voir, peu importe, ne serait-ce que la performance magistrale d'Ariel Charest.
Peu importe notre tolérance envers les métaphores, c'est à voir. Puis
Ben oui, puis j'ajouterai quand même, parce qu'il y a eu une petite tragédie, mais une grosse tragédie qui a frappé Christina Moschini hier. Je disais qu'elle était récemment, depuis quelques années, déménagée à Saint-Élie-de-Caxton. Eh bien, au lendemain de sa première de théâtre, son immeuble est passé au feu. Ouais, donc ça fait quand même, et ça c'est, on le sait, c'est su publiquement, l'immeuble dans lequel elle habitait à Saint-Élie est perte totale. Alors elle n'a pas eu le temps de défaire ses bagages, en fait, qu'elle a dû les reprendre dans ses bras et se sauver de son bloc appartement. C'est un drame qui arrive à plein de monde à tous les jours. Cependant, l'abordé a été assez généreux pour mettre un petit panier donc à la sortie et à l'entrée de la salle. Alors si vous voulez faire un don pour aider Christina à se reconstruire, il y a également un GoFundMe qui a été mis sur place pour essayer de lui donner un petit coup de main parce que bon, ça coïncidait de manière assez triste avec, disons, la grandiose première théâtrale. Et d'un autre côté, la vie te slap en arrière de la tête.
C'est une journée de les émotions en montagne russe, mettons.
Exactement. Ouais, donc, vous êtes invité à le faire. Moi, je l'ai fait. Je vous invite à donner à la hauteur de ce que vous pouvez. Là, tu sais, on est à l'approche des fêtes, puis pas de bon timing, mais disons que celui-là est particulièrement vicieux.
Ouais.
Ça, c'est ce qui se passe du côté de l'aborder. C'est jusqu'au 16 décembre. Alors, il va rester encore deux semaines pour vous pour aller voir les 5 à 7 de l'aborder. Les shows commencent à 17h30 pour les gens qui veulent faire le petit calcul de la fin de leur chiffre de travail jusqu'au cheminement vers la rue Saint-Joseph pour aller voir le show.
Puis, Émilie, ma question que j'appelle impertinente d'habitude, mais qui est peut-être pertinente cette fois-là, comme c'est une formule 5 à 7 et on offre boucher et boire au public, est-ce que cette fois-ci, il y a une option sans alcool qui est offerte?
Je pense qu'il y a une option sans alcool qui est offerte de toute manière à l'aborder en 5 à 7, je crois. Et là, je m'aventure sur un sujet que je n'ai pas validé parce que je suis plus du genre alcool que
c'est
sans
ça
alcool.
Que ta réponse me permet de comprendre,
Mais je pense qu'il y a quand même des options sans alcool intéressantes qui sont offertes. Mais oui, c'est quand même drôle de siroter une bière en se faisant remettre d'en face un peu les torts de l'alcool. Tu sais, il y a quelque chose de très ironique là-dedans.
C'est ça.
Mais ouais, effectivement, ça sort ta réflexion.
Alors, je retrace ton parcours d'hier soir. Là, tu sors de l'abordé et tu te diriges vers la haute ville. Tu t'en vas au premier acte.
Ben oui, puis moi, en crise hier.
C'est vrai.
Alors, j'arrive à l'aborder. Je passe dans le tordeur. Pas l'aborder, mais bien le premier acte, je passe dans le tordeur. Et je m'installe pour une toute autre expérience, celle de Box Exp, texte mise en scène de Lauriane Charbonneau. C'est un petit bébé, vraiment, Box Exp, qu'on mise en scène avec Samuel Bouchard. On nous dit ici, chez Box Exp, pardon, qu'on est librement inspiré de Black Mirror. C'est déjà dit, je pense que c'est d'entrée de jeu. Je pense que Lauriane, c'est pareil, Lauriane, au début de la semaine aussi, j'imagine, à ce sujet-là.
Exactement, puis ça a été mentionné, c'est la forme là, qui peut rappeler ça un petit peu.
Exact. Bon, maintenant, donc, on est devant des tableaux. C'est 5 tableaux, 5 séquences avec des personnages différents. On pourrait appeler ça des nouvelles, des short stories, des courtes pièces de théâtre qui se succèdent durant les 90 minutes que dure la pièce à premier acte. Dans un dispositif bifrontal, ça veut dire qu'il y a des spectateurs de part et d'autre d'une scène centrale. Donc, on se fait face, des rangées de spectateurs qui se font face devant un dispositif scénique qui est plein de petites boîtes, mais refermant avec des rideaux.
Okay.
Alors, t'agis donc finalement, c'est comme des douches. C'est comme si t'as des douches à quatre côtés qui le déplacent et qui les éclairent de différentes manières au fil des différents tableaux pour faire évoluer le décor quand même. Un procédé assez ingénieux, je dois le souligner. Donc déjà, notre attention est piquée. Dès le début du spectacle, on nous dit qu'on est invité à garder notre téléphone cellulaire ouvert puisqu'il sera utilisé durant la pièce. Alors, on nous indique qu'il faut scanner un code QR puis se rendre sur un site web XY. Et ce site web-là de BoxX va s'animer de manière interactive durant la durée des différentes pièces. Alors, déjà, on dit qu'il y a des éléments intéressants. Il y a définitivement une belle audace là-dedans, celui de nous laisser nos notifications d'en face pendant une pièce de théâtre. C'est dangereux.
Ouais.
Mais, on fait ce pari-là du côté de BoxX. Est-ce que le pari est relevé du côté de cette jeune production-là qui était auparavant passée par les chantiers du Carrefour de théâtre? Ma réponse est ambivalente.
D'accord.
J'aurais envie de te dire.
On se nuance.
J'ai adoré les éclairages, j'ai adoré la conception vidéo qu'il y a eu derrière ça qui nous amène dans un univers un petit peu angoissant, qui est aussi celui du futur et de la technologie. Cependant, lorsqu'on parle d'une inspiration de Black Mirror, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à se détacher assez de technologies-là. Ouais, les idées sont pas mal les mêmes, j'ai envie de dire, que ce qu'on a pu voir. Puis moi, j'ai tout écouté les saisons de Black Mirror, tu m'en passeras pas une.
Ouais.
mais donc, c'est ça, je pense qu'il aurait peut-être fallu un peu plus, disons, de réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de pièces aussi, puis c'est pas la seule pièce qui s'inspire du futur un petit peu post-apocalyptique puis de la dystopie. Ça fait quand même plusieurs œuvres qui nous en parlent, que ce soit littéraire ou théâtral, puis j'ai l'impression qu'on a de la misère à se décoller un petit peu des mêmes idées toujours. Bon, maintenant, ça aurait pu fonctionner quand même, mais j'ai l'impression que la production a peut-être pas les moyens de ses ambitions, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois, ouais. Donc,
parce que de vouloir se projeter dans le futur, c'est aussi de compter sur certaines technologies, tu sais.
Puis
je veux dire, ça prend quand même. Puis à premier acte, parfois j'ai vu des affaires formidables, mais c'est difficile parfois de pouvoir avoir un levier technologique qui nous permet finalement de faire ce qu'on a le goût de faire. Néanmoins, je pense qu'il y a des bons propos là-dedans. Il y a quand même des personnages qui sont bien conçus, qui sont bien joués. Le texte est quand même très intéressant. Une de mes déceptions, ça a été le bifrontal dont je te parlais, les deux pans, donc les deux sections de siège. Moi, j'ai trouvé que ça agissait comme une contrainte pour eux et que c'était pas toujours payant. Donc, il n'y a rien vraiment qui justifiait le bifrontal. Puis j'ai même trouvé que ça leur nuisait à certains moments parce que je ne voyais pas très bien plusieurs sections du spectacle et que ça me faisait manquer une partie des informations. Donc ça, c'est juste dommage. Ça aurait pu être comblé par le téléphone cellulaire, hein, qui, on se rappelle, fait partie du spectacle.
C'est vrai.
Mais il y a trop peu d'interactivité avec le téléphone cellulaire. Quelques petits éléments, je dirais, qui font sourire ici et là, mais ça nous distrait plus qu'autre chose de ce qui se passe sur scène. Puis des fois, on en manque des bouts parce qu'on essaye de voir ce qui se passe sur notre téléphone. Donc, je pense qu'il y avait des bonnes idées à la racine, mais qu'on a peut-être manqué de ressources, de temps, de moyens pour les pousser à bout. Je pense que ça enlève absolument rien au concepteur, ça enlève absolument rien à la mise en scène. Je pense qu'il y a eu un beau travail d'équipe qui a été fait derrière ça et que c'est une première production quand même pour cette équipe-là. Je crois qu'il faut continuer de les surveiller dans le futur pour voir comment ces idées-là peut-être vont changer de direction complètement ou comment elles vont maturer peut-être et leur permettre peut-être de faire une version alternative de tout ça et nous présenter la forme évoluée d'un éventuel BoxX.
Donc, Émilie, peut-être qu'en tant que spectateur ou spectatrice, tu nous recommandes de ne pas nécessairement traîner notre cellulaire?
Ouais, mais je dirais, c'est pas un agrément qui va changer votre vie au courant du spectacle. Je pense que moi, ça m'a déconcentré plus qu'autre chose, mais bon, je pense que chacun va peut-être avoir une opinion qui est différente.
Ouais.
Je pense sincèrement que cette pièce-là aurait peut-être gagné à développer une longue histoire plutôt que d'en charcuter cinq une à la suite de l'autre, pour peut-être davantage nous plonger de manière immersive dans l'univers qu'on nous propose, qui est assez complexe, mais rigolote par moment. Ouais. On souligne l'absurdité de la technologie, et donc je pense que ça va venir rejoindre quand même une corde sensible chez les gens. Néanmoins, c'est peut-être pas le show le plus renversant que j'aurais vu cette saison-ci. vous invite quand même à y jeter un œil si ce que je viens de dire vous a peut-être piqué la curiosité. Mm-hmm. C'est jusqu'au 10 décembre que c'est présenté à premier acte à 20h tous les soirs. Et il y aura ce vendredi une discussion avec Samuel Matteau, qui est cinéaste et artiste numérique dans le monde du jeu vidéo notamment, qui viendra parler avec le public et avec les concepteurs de la pièce de la fameuse relation toxique qu'on a avec la technologie. Alors en gros, en ce moment à Québec, il y a de la relation toxique avec l'alcool et avec la technologie. Préparez-vous à vous le refaire mettre sur le nez.
Excellent. Ben, on se le tiendra pour dit. Un gros merci, Émilie Rioux. C'était donc Coup de théâtre avec un coup de fil et un coup de fièvre.
Ben voilà, puis je vous invite, moi, à aller faire un petit tour du côté du Jamais Lu qui a démarré hier soir avec une soirée fort festive sous le signe de la musique trad. Ça se poursuit ce soir avec deux lectures, vendredi avec l'accélérateur de particules. Il reste encore quelques billets, alors allez jeter un œil sur ce qui est présenté en ce moment au Théâtre Périscope avec le festival du Jamais Lu. Merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci pour ce topo complet, Madame Rioux. À la semaine prochaine. Repose-toi, là. Quant à nous, c'est en musique qu'on va poursuivre. Tout d'abord, j'aimerais vous annoncer les résultats de notre sondage maison, à savoir si vous aimeriez que Gab Paquette devienne le prochain animateur d'Occupation Double. À 97%, Chizien et Chizienne, vous avez répondu que vous étiez très pour. Alors, Gab, on soumet ta candidature là, par le biais des ondes, comme ça. Les meilleures chances à tous les participants, à toutes les participantes. En musique, c'est Mandou Seigneur aujourd'hui qui nous offrait un tout nouveau clip, non pas une toute nouvelle chanson, mais ça m'a rendu un peu nostalgique et j'avais envie de vous faire jouer Hors Vivant, d'autant plus que mon doux seigneur s'est vu remettre le Lucien du meilleur album folk de l'année pour Fleur de l'âge. C'est au Gamic dimanche dernier que Aymeric est reparti avec ce prix. Le chanteur du groupe, c'est d'ailleurs lui qui est le personnage principal de ce nouveau clip pour Hors Vivant. C'est un clip qui est filmé un peu en fisheye, donc avec caméra au corps. Le spectacle est dans la vanne pendant qu'il se déplace. On voit Aymeric dans, je sais pas, d'une manière dont on le voit pas habituellement sur scène ou dans les autres clips. Alors ça m'a bien plu de le découvrir ainsi aujourd'hui en mode spectacle ambulant dans la vanne du groupe. Alors pour le plaisir de vos oreilles, voici Hors Vivant de Mon Doux Seigneur.
Ça fait longtemps qu'on s'est croisés, on s'est vu, on s'est pas parlé. J'ai l'impression d'être en retard sur la vie puis tes histoires. Ça ferait du bien de te sortir ce soir. Où t'es passé, tu m'as manqué. We'll be right back.
danse dans le hood. En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Schiste 94.3. On est avec vous pour vous raccompagner à la maison jusqu'à 17h30. Ce qui s'en vient dans les prochaines portions d'émission, eh bien, c'est Jenny de Production culturelle qui va nous présenter le temps d'une toune. Ça se passe ce soir à la Source de la Martinière à 7h. N'hésitez pas à vous procurer un billet plus tôt car les billets à la porte seront 5$ plus chers. Donc, c'est sur lepointdevente.ca si vous avez envie de payer 10$ tout de suite pour voir Pretty Smile, Marc Étincelle et Sandra Contour. Donc, le temps d'une toune, c'est le premier show hors bac cette année, donc qui est présenté là-bas. On s'en reparle vers 16h45, alors qu'à 17h, c'est Alex Télamarche qui me rejoint pour jaser littérature sur nos ondes. En mode... nouveauté musicale, pis pas, là. Ça date de l'automne, mais je m'ennuyais de vous la faire jouer. Le titre, Le sel de la mer de Zoé Sanders sur les ondes de Chérie, j'arrive.
J'ai entendu des rumeurs que l'hiver pouvait être doux, qu'il était d'un calme flou. Pour ma part, je le quitte.
Espero
C'était le sel de la mer de Zoé Sanders sur les ondes de Schiste 94.3. Elle dit que tant qu'à pleurer, aussi bien pleurer à la plage. Quant à moi, c'est la version actualisée de d'Aznavour qui nous dit que la misère est moins pénible au soleil. Et toujours dans le thème de la plage, j'ai un peu de suite dans les idées. Là. C'est Carré de sable, un titre de Mantle qui va suivre tout de suite sur les ondes de Schiste 94.3.
Et maintenant
C'était Carré de sable de Mental sur les ondes de Schiz 94.3. C'est une pièce tirée du micro-album Madeleine qui est paru le 11 novembre dernier. Dans les prochaines minutes, c'est Jenny de Production culturelle qui s'en vient nous parler du spectacle de ce soir à la Source de la Martinière. Un show qui s'intitule Le temps d'une toune. Ça mettra en vedette Sandra Contour, Marc Étincelle et Pretty Smile, dont vous avez déjà entendu parler sur les ondes de Schiz en tant que participant du projet Échelon. Eh bien, c'est à 16h45 que je vous en rejase. Pour le moment, j'ai envie de vous parler d'un nouveau projet musical. C'est celui de Catherine Noël, qui n'est pas une inconnue dans le milieu musical. C'est l'une des membres du trio que forment les A-Babies. En fait, c'était la dernière à pas avoir son projet solo, là. Viviane Roy, vous la connaissez en tant que Laura Sauvage. C'est la même chose pour Julie Aubé, que vous connaissez en tant que Julie Aubé. Et là, c'est le tour de Catherine Noël, qui joue de la basse et les percussions, notamment dans le groupe, de lancer son propre projet solo. Et c'est le titre Noël chez mes mères qu'elle nous présente aujourd'hui, 1er décembre. Je vous avertis tout de suite, changez pas de poste. C'est pas exactement une toune de Noël, là. Vous vous en rendrez même pas compte. Il y a pas de petits bruits de grelots pis tout, là. Ça passe vraiment bien. Je vous le dis, faites-moi confiance. Voici Noël chez mes mères sur les ondes de Schiz 94.3.
Ça fait du bien.
C'est une toune de Noël? T'avais-tu au complet? OK. OK. Ouais, peut-être moi t'en mettre tout.
Partout tu ne les as pas vus venir, si fraîche était l'odeur de ton prix. La vie est ainsi faite, ton âme était si belle. Ne les laisse pas l'empailler sur le pieu, ton cœur va brûler. Plus que la chair de tes amours brisés, les regards épineux vont piller. Que la reine se sent, n'oublie pas. Ton ange te voit triste, tu faiblis, ne monte pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros, il te mangera le soir. T'es la reine se sent, n'oublie pas. Je te vois triste, faiblis, ne monte pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros. Il te mangeront le soir. Te mangeront le soir. Toute seule, j'ai croulé, tombé du nid. La pression si forte, j'ai bu le vide. La vie est ainsi faite, au fini était la fête. Je les ai laissés l'empailler sur le pieu, mon cœur a brûlé. La chair de mes âmes ont brisé, les regards épineux ont pillé. T'es la reine, ce soir n'oublie pas. Ton ange te voit triste, faiblis, ne monte pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros. Il te mange le soir. T'es la reine, ce soir n'oublie pas. Ton ange te voit triste, faiblis, ne monte pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros. Il te mange le soir. Te mange le soir. Trop gentil, tu laisses marcher. Quand vient tes larmes, personne ne se souviendra. T'es trop gentil, tu les laisses marcher. Quand vient tes larmes, personne ne se souviendra. T'es la reine, ce soir n'oublie pas. Ton ange te voit triste, faiblis, ne ment pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros. Ils te mangeront le soir. T'es la reine, ce soir n'oublie pas. Je te vois triste, faiblis, ne monte pas. Ton sort trop gentil, mon ange est gros. Il te mange le soir.
Vous venez venez d'entendre T'es la reine de Naïma Frank et Liam sur les ondes de Chiz 94.3. C'est un titre qui est tiré de l'album Petite fille devient grande, album qui date du début du mois de novembre, donc qui fait à peine son un mois. J'ai maintenant quelqu'un, une invitée, oui, particulière à l'autre bout du fil. C'est Jenny de Production Culturelle qui est là pour parler du temps d'une toune. Allô, Jenny.
Allô, ça va bien?
Ça va très bien, toi aussi?
Oui, j'ai vraiment le temps ce soir.
Oui, écoute, on se parle à quoi? 2 heures de l'ouverture des portes? C'est vers 7 heures que les gens sont attendus à la sauce de la Martinière?
Oui, exactement. En ce moment, les soundchecks sont en train de se faire. Là, les groupes sont rentrés dans le bar, puis on a très hâte.
Mm-hmm. J'ai besoin de dresser un topo pour les auditeurs, les auditrices qui ne seraient pas déjà au courant de l'existence, dis-je, de Production Culturelle. Qui êtes-vous? Que faites-vous, Jenny?
On est un comité qui existe depuis 2011 à l'Université Laval. Il y en a plusieurs en communication publique, mais nous, on est plus en profil, je dirais, événementiel. Les autres, c'est des galas, des salons. Nous, on se concentre sur les artistes émergents de la ville de Québec. Puis notre but, c'est de les mettre de l'avant, surtout, en fait, les groupes qui ne sont pas beaucoup connus, à l'aide de plusieurs spectacles au courant de l'année. Puis ça, c'est notre premier, là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ce premier show-là. Fait que ça va être le fun de voir ça à l'œuvre.
C'est une mission qui est tout à fait compatible avec celle de Chiz, en fait. Alors, faut vraiment pas hésiter à passer par Chiz pour la promotion de ce genre d'événement-là. Ça fait partie de notre mission aussi, mettre des gens sur la map, comme on dit. Alors, je suis bien contente de savoir que vous avez le même rôle, Crime, et que vous le faites bien. C'est donc le premier show hors bac de l'année. On s'attend à ce que Production Culturelle présente des événements à peu près à quelle fréquence au cours d'une session?
D'habitude, c'est une fois par session, mais cette année, on a décidé de rajouter un spectacle show or back de plus. D'habitude, on en avait seulement qu'un.
OK.
Puis, petite primeur, le prochain, il va être au mois de février.
OK.
Puis, il va comporter seulement des artistes féminines.
Hey, ça, oui. Ça rendrait jaloux Cap d'Espoir avec sa programmation masculine. C'est bon, ça équilibre le balancier. Est-ce qu'on a déjà une idée des artistes qui vont faire partie de la soirée ou là, je suis trop tôt pour une primeur?
Ben là, pour vrai, pour ceux-là qui sont en train d'écouter, ça ne me dérangerait pas de dire les artistes en primeur. Ça serait Émi Rouge. Erika Varian.
Oui, qu'on connaît bien.
Et Lyd.
Ah, yes. Ah, génial. En plus, l'album de Lyd est en écoute au complet en ce moment sur le site de Radio-Canada. C'est une superbe découverte. Là. Je pense que côté visibilité, c'est bien parti. Crème, OK. C'est ce qu'on appelle...
Tout un line-up, là.
Ben, c'est ça, j'allais dire beau pacing en langage culturel. Donc, comment traduire? Beau menu, on va dire, pour février. Mais là, parlons de celui qui est ce soir. C'est 3 artistes, encore une fois, que vous mettez à l'honneur, dont Pretty Smile, Marc Étincelle et Sandra Contour. Cette sélection-là, Jenny, vous la faites comment? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce sont les 3 artistes que vous vous êtes dit « ça nous prend ces gens-là ce soir ensemble »?
La plupart de ces artistes-là, c'est des artistes qui nous ont contactés au courant de l'année qui connaissaient les shows hors bac qui étaient venus dans les dernières années. Puis, comme Marc Étincelle et Pretty Smile, eux, ils sont venus nous voir puis ils étaient très intéressés par le projet. Tandis que Sandra, ben, c'est une amie à moi, on faisait du volleyball quand on était plus jeune. Puis là, ben, la musique nous rejoint tous les deux. Puis j'ai demandé si elle était disponible et donc, elle était totalement dedans.
Puis, est-ce que ce sont 3 styles musicaux différents ou les 3 projets se rejoignent quelque part?
Pour ce soir, ça risque de clasher.
Ah, OK, cool, OK.
Un melting pot d'un peu tout. Marc Étincelle, c'est vraiment un début de projet. J'ai jamais entendu ses tunes avec full band. J'ai vraiment entendu solo. Fait que c'est la première fois qu'on va l'entendre full band ce soir.
Mm-hmm.
Sandra, elle, c'est vraiment plus... C'est super doux, c'est à la petite guitare. Donc, ça va être un début de show vraiment relax. Puis là, on va commencer un petit peu plus fort avec Marc Étincelle, full band. Puis Pretty Smile, c'est du gros rock. Fait que ça va juste... y aller en montant.
C'est un peu un format vitrine, autrement dit. T'sais, tu vas là puis t'es exposé à différents styles musicaux carrément.
Exact.
Cool. Puis est-ce que c'est... Là, les portes ouvrent à 7, le show est à 8. Comme vous avez 3 artistes, dirais-tu qu'il y a un show principal ou au contraire, vous donnez le même espace à chacun, chacune des artistes ce soir?
C'est sûr que Sandra, si elle avait eu plus de stock, on y aurait mis autant de temps. C'est 30 minutes pour Sandra, ensuite 45 minutes de Marc, puis 45 minutes de Pellissima.
Mm-hmm.
Fait que chaque personne avait théoriquement 45 minutes de libre. Mm-hmm. C'était l'artiste qui décidait.
Oui, donc la même mise en valeur là, pour tout le monde.
Exact.
Pretty Smile, si je ne me trompe pas, c'est un des artistes qui faisait partie du projet Échelon qui est allé jouer à l'Impérial il y a quelques jours de cela. Là.
Oui.
Ah, OK. Donc, après l'Impérial, déjà, deuxième show dans la même semaine.
Ça va vite.
Ça y va. Est-ce qu'il reste encore pas mal de billets, Jenny? Dis-moi, on peut les acheter en ligne ou à la porte?
Oui, il reste encore des billets en ligne, puis ils sont moins chers.
C'est ça, à la porte, je pense que c'est 15 $. OK.
Exact.
Par rapport au profit de ce soir, parce que comme le but, c'est pas de vous en mettre plein les poches, là. Certes, il y a la rétribution des artistes, mais je crois que c'est la boussole qui va bénéficier des fonds après le spectacle.
Oui, exactement. On ramasse tout ça. Toutes les trois shows, en fait, qu'on va faire cette année vont aller directement. Tout l'argent qu'on va faire va aller directement à cet organisme.
Est-ce que ça fait toujours partie de l'idée derrière Production culturelle de remettre les profits à un organisme ou c'est quelque chose qui vient de s'ajouter pour vous autres?
Ah, c'est ça. À chaque année, les directeurs doivent décider la cause qu'ils vont travailler pour durant l'été. Puis quand la session commence, on annonce la cause qu'on a choisie, on sélectionne les membres et le principal.
OK, génial. La boussole, bon, je m'avoue un peu inculte, est-ce un organisme de Québec? Que peut faire la boussole pour les gens qui nous écoutent?
La boussole, c'est situé à Limoilou, puis ça travaille vraiment proche avec... ça travaille pas directement avec la situation de problèmes de santé mentale, c'est plus les personnes qui sont de l'entourage.
Okay.
Donc, ça va donner des outils aux personnes qui sont un peu touchées par ça. Ils ne sauraient pas nécessairement comment agir ou dire les bonnes choses à ces personnes-là. Donc, la boussole va aller les outiller.
Comment accompagner des proches, finalement.
Exactement.
Rôle de la boussole. Ben, crime, ça vaut encore plus la peine de se rendre au temps d'une toune dans ce temps-là. Puis, parce que ça s'appelle le temps d'une toune, c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le temps. Je me disais, est-ce que chaque artiste fait rien qu'une toune? Ça a porté à confusion de mon côté, mais c'est bon, c'est des shows complets, là.
On trouvait que ça sonnait bien, puis ça rappelle un peu une petite
minute. Oh, je croyais t'avoir perdu, mais tu es toujours là, Jenny, il me semble.
Ah, désolée, ça a bugué. Pour rappeler le...
Ben, tu vois, j'arrivais à ma question impertinente. Avant que le problème technique prenne trop de place, je vais la poser tout de suite. L'événement dit qu'on peut y aller avec un brocoli dans les oreilles. Est-ce que ça fait référence à quelque chose d'obscur que j'ai pas vu passer?
C'est un peu pour dire que même si tu les connais pas...
Ah!
Go for it! Mets tes préjugés de côté, puis viens donc découvrir les trois artistes, même si tu n'as aucune idée de quoi tu parles.
Excellent. Donc, pour les gens qui sont qui ont envie, oui, d'être en mode découverte, là, puis c'est le temps, là, après les raps Spotify, là, où on... En tout cas, moi, je regarde ça de mes amis pour faire des découvertes, justement. Bien, c'est une autre bonne façon d'aller faire des découvertes ce soir à la Source de la Martinière. Vous pouvez arriver dès 19h. Achetez donc votre billet en ligne. Vous allez économiser 5 $, mais si vous vous sentez généreux et que vous voulez donner 5 $ de plus à la boussole, bien, payez à la porte, la gang, puis ça va le faire pareil.
Yes.
Un grand merci, Jenny. Donc, le temps d'une toune, c'est organisé par Production culturelle. On se reparle en février pour votre soirée à line-up féminin.
Et merci à toi pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Une belle soirée.
Bye bye.
On poursuit en musique avec Céleste. C'est un titre de Mirabelle qui est paru, ben oui, aujourd'hui même, 1er décembre, en mode Tundun Well.
Le sapin, les lumières et un tram de fond. Tourne, tourne, tourne le Noël de Charlie Brown. Comme nos pas dans la neige. Les souvenirs disparaissent. Sous les manteaux cachés, la guerre des tuques, les enfants. Flocons faits de papier constellent la maison. Comme un pas dans la neige. Les souvenirs disparaissent. Mais c'est un on avait tracé dans rouge, tu m'as demandé. Joue rose et s'il gelé, s'il existe pour frais. On a marché sous la lune, dans
c'était Céleste, un titre de Mirabelle sur les ondes de Chiz 94.3. Ne vous en faites pas, je ne vous écœurerai pas tous les jours avec les chansons de Noël. Il suffit d'aller au centre d'achat si vraiment vous voulez en entendre. Mais ce sont les sorties du jour et c'est aussi une façon de vous rappeler qu'il s'agit de la journée de la guignolée des médias. Et c'est le moment où je vous invite à faire comme nous ce matin, équipe de Chiz qui sommes sortis au froid dès 5 heures ce matin, oui, courageusement, pour récolter vos dons devant le pavillon des jardins. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de Moisson Québec pour faire un don à la hauteur de vos moyens. Donc, on donne selon nos moyens ou on prend selon nos besoins. Ne vous en faites pas si vous avez vous-même là, recours au service de Moisson Québec. Ben, gardez votre 2 piastres, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de petit don, sachez-le. C'est avec les scènes qu'on fait des pièces, comme dirait ma mère, que je salue, qui m'écoute en direct du Lac-Saint-Jean. Voici Jules encore et Cui-Cui, tout juste avant la pause publicitaire. Ce sera suivi de la venue d'Alex Télamarche, chroniqueur littéraire du jeudi. On s'entretient de langue française avec lui aujourd'hui dans les prochaines minutes. Restez là jusqu'à 17h30 pour cette édition du jeudi de Chérie, j'arrive.
cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Et si je me mens, je me dis que tu écouteras cette chanson. Je me dis que tu penses à moi de temps en temps. Je me dis que je rentrerai à la maison. Je ne me sens pas chez moi.
C'était « Et si je me mens » de Junes sur les ondes de Chiz 94.3. Dernière et troisième portion d'émission que nous entamons jusqu'à 17h30. Cette portion s'entame sous le signe de la littérature avec nul autre qu'Alex Télamarche. Bienvenue en studio.
Merci, Andréane.
On se disait qu'il y avait beaucoup de chaises autour de la table avant l'entrée en onde. C'est que les architectes du son sont diffusés tout de suite après « Chérie, j'arrive ». Et il y a pas mal de chaises en studio. Il y a une expression qui dit « un malheur n'arrive jamais seul ». On se trompait tout ce temps-là, c'est « un rappeur n'arrive jamais seul ». Alors, voilà, il y a de la chaise en studio.
Effectivement, c'est une belle gang, les architectes du son. Ils font venir beaucoup d'invités, donc on vous invite à rester en onde tout à l'heure pour en savoir plus sur eux. Et pour l'heure, eh bien, j'ai envie de vous parler d'ouvrages sur la langue française, puisque, bon, on le sait, certains rappeurs ont une maîtrise de la langue qui est absolument incroyable, mais aussi parce que, en fait, surtout parce que au cours des derniers jours, on a parlé de l'état de la langue française. On l'a vu dans les journaux, il a été difficile pour certaines personnes de se faire servir en français dans
les hôpitaux.
Et tu sais, bon, à l'épicerie, à la rigueur, bon, il y a toujours moyen de se débrouiller si la caissière parle pas anglais, même si ça peut être choquant. Mais quand tu te fais expliquer les traitements que tu vas avoir pour ton cancer, tu as peut-être besoin d'avoir une précision qui est quand même assez importante. Puis, ben, surtout, tu es dans un état de stress parce que tu es malade. Et donc, ça a amené la question de la langue dans l'actualité. Ouais. François Legault s'est également prononcé, effectivement, lors du discours du trône pour renforcer la langue française, même si, effectivement, bon, il ne fera pas une nouvelle loi 96. Et donc, je me suis dit, ben, si on veut proposer de la lecture aux gens, eh bien, quoi lire? Et j'ai envie de commencer avec « Délier la langue pour un nouveau discours sur le français au Québec » de Mireille El-Chakar.
Tu me dis qu'elle dédramatise les choses quand même d'une belle façon. Je sais déjà que c'est le livre que je vais ajouter à ma liste de lecture. Il y en a toujours un parmi les trois qui me correspond parfaitement bien. Je pense que ça va être le premier titre.
Et te connaissant un peu, j'ai l'impression que ça va te plaire parce que c'est bien écrit, c'est simple, c'est clair, c'est convaincant. Ce dont on y parle, effectivement, ben, c'est comment est-ce qu'on peut dédramatiser le débat sur la langue française, comme tu l'as mentionné. On a beaucoup de commentateurs au Québec qui lancent des cris d'orfraie dès qu'on s'attaque à la langue française, dès qu'il y a des anglicismes qui disent que les jeunes parlent mal, aussi bon, le fait de vouloir mettre nénuphar avec un F ou oignon avec un O et un G, ça barbarise la langue. Il y a des levées de boucliers. Et Mireille El-Chakar, justement, use de sa formation de linguiste pour démystifier tout ça, dédramatiser le tout et être capable, effectivement, de nous dire que oui, la langue française est importante. Oui, il faut la protéger. Mais lorsque, bon, ces gens-là crient pour la protection de la langue française lorsqu'il est question de réformer l'orthographe ou lorsqu'il est question des anglicismes, ils se trompent peut-être de cible.
C'est bon. Et puis, donc, ouais. J'ai 1000 commentaires à faire, Alex. T'as vraiment misé dans le 1000 par rapport aux rectifications orthographiques. T'as parlé de nénuphar. Puis là, je me suis dit, ah oui, c'est un retour à une graphie d'origine. Pourtant, nénuphar s'écrivait à la base avec un F. Puis ça change pas la graphie des autres mots en PH. Là. Éléphant, encore un PH. Faut pas capoter avec ça. Et puis, rumeur que je tiens à démystifier, là, comme en tant que fille qui a étudié en lettres, un cheval... Des chevaux. Ça n'a pas changé. Si vous voulez absolument le prouver à quelqu'un de votre famille, allez sur YouTube, allô prof, cheval, chevaux. Il y a une superbe vidéo qui l'explique fort bien. En plus, c'est ma face dedans. Auto-promo! Ah
ouais. Et donc, sur la question de l'orthographe, tu le mentionnes bien, il y a des, il y a la nouvelle orthographe qui est plus si nouvelle que ça, comme nous le dit Mireille El-Chakar, parce qu'elle date des années 90 quand même.
Ça fait 32 ans.
Mais la raison pour laquelle la nouvelle orthographe, justement, s'impose de la vie des linguistes, c'est que lorsqu'on étudie l'histoire de la langue française, on se rend compte qu'elle a, à certaines époques, volontairement été complexifiée pour des raisons de marqueur social. Moi, bon, je suis meilleur que toi parce que je suis capable de parler français d'une certaine manière et je vais introduire dans la langue des complexifications que si tu n'utilises pas, je saurai que tu n'es pas dedans. Donc, tranquillement, le français évoluait comme ça et, Mireille Chakar dédramatise un peu le tout en disant mais si vous n'êtes pas bon en orthographe, c'est pas nécessairement de votre faute. C'est entre autres parce que la langue française a été conçue avec beaucoup effectivement d'exceptions et, comme tu le dis, est élitiste. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de détruire tranquillement ces complexités, de les uniformiser, de faire évoluer la langue? La langue, effectivement, n'est pas quelque chose qui doit être muséifié, momifié.
Tout à fait.
Sur la question des anglicismes, d'ailleurs, on s'en effraie, mais il y a plusieurs des anglicismes qu'on a aujourd'hui qui sont inspirés de mots que les Français ont introduits en Angleterre vers l'an 1000 avec Guillaume le Conquérant, qui, on se rappelle, était un Normand, donc qui venait de France, qui arrive là-bas. Donc, tous les mots qui sont proches de la royauté ou de la richesse, pas tout, mais beaucoup de mots qui sont proches de la royauté, de la richesse, comme rubis, perle, princesse, duc, en anglais, viennent du français. Et d'ailleurs, ressemble effectivement de duc, de duchesse, duc, duchesse, prince, princesse, prince, princesse, pearl pour perle, et viennent effectivement du français parce que c'est les élites normandes qui les ont amenés. Donc, il y a effectivement des mots qui circulent d'une langue à l'autre. Après, on a effectivement amené des anglicismes aujourd'hui, mais au même titre qu'à une certaine époque, on avait des arabismes, si je peux m'exprimer ainsi, ou des italianismes, des mots, effectivement, des latinismes, des mots qui viennent du latin, du grec, de l'italien. À chaque époque, il y a une culture qui est dominante et qui va influencer les autres langues.
Lingua franca.
Exact. Le gaulois aussi a été une langue qui a influencé le français. Et donc, il ne faut pas effectivement voir nécessairement un anglicisme aussi comme une faute. Des fois, il y a un besoin d'exprimer quelque chose et lorsque ça n'existe pas dans la langue qu'on parle, c'est correct de l'employer, l'emprunter à une autre langue.
Tout à fait.
Il y a également des anglicismes, comme nous le dit Mireille El-Chakar, qui sont passés dans l'usage. C'est comme par exemple... mettre l'emphase sur ou s'impliquer. À la base, en français, on ne peut être qu'impliqué dans quelque chose de fâcheux. Donc, un accident d'auto ou une sombre affaire. Alors qu'aujourd'hui, tu vas remplir n'importe quel formulaire de demande de bourse et on va te parler de ton implication étudiante. Même chose pour mettre l'emphase sur. C'est un anglicisme qui vient de emphasize, mais qui est largement adopté, effectivement, en français. Donc, à partir de quand est-ce qu'on accepte un mot, tu sais, tout comme yougour, ça vient du turc, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui se lève la nuit pour détester effectivement l'influence turque sur la langue française. à partir de quand est-ce qu'un mot, on décide qu'il est correct? Donc, c'est toutes des choses qu'elle démystifie dans des chapitres courts très bien écrits qui nous permettent effectivement de dédramatiser la situation.
Tout à fait. L'usage, il est pour beaucoup aussi quand on finit par accepter un mot. Tu l'as bien dit, une langue, ça évolue. Une langue qui cesse d'évoluer, c'est une langue qui meurt. humeur. Alors, nos salutations au linguiste qui a écrit dans Le Devoir hier à propos de l'écriture inclusive. On souhaite à la langue de poursuivre son évolution si on veut qu'elle reste bien vivante.
Merci pour ce petit commentaire politique qui me permet de glisser vers mon second ouvrage qui, lui, est vraiment au cœur de la politique linguistique et au cœur aussi du droit. Le piège des langues officielles Québec et minorités francophones dos à dos du juriste Éric Poirier nous permet de voir tout le poids que peut avoir une politique et tout le poids que peuvent avoir les tribunaux sur l'évolution d'une langue, dans ce cas-ci, en fait, sur l'évolution du français au Québec. Mm-hmm. De quoi nous parle Éric Poirier? C'est simple, il nous parle principalement de la loi sur les langues officielles qui a été introduite par Pierre-Éliott Trudeau en 1969 et de son impact sur le français et sur l'anglais au Canada et au Québec. La loi sur les langues officielles, elle visait à établir un certain bilinguisme, si je peux m'exprimer ainsi, puis bon, à donner plus de poids au français en contexte minoritaire. Mais ce faisant, eh bien, elle a créé une asymétrie parce que en voulant donner plus de poids aux Français en contexte minoritaire, eh bien, on a voulu donner plus de poids en anglais en contexte voilà. minoritaire, donc au Québec. Le Québec, qui, comme on le sait, ben, est un des endroits, la minorité anglophone au Québec, qui a énormément de services en anglais à Montréal, deux universités, des cégeps, des hôpitaux qui sont quand même assez importants. Si effectivement, je pense qu'il faut étendre davantage des services en anglais aux communautés anglophones, par exemple en Gaspésie ou dans certains coins des cantons de l'Est, où il y a une communauté anglophone historique qui n'a pas accès à autant de services qu'elle devrait, on s'est servi effectivement de la loi sur les langues officielles pour étendre l'anglais dans des endroits où il était déjà très bien desservi au Québec. Et on s'est servi aussi de la loi sur les langues officielles pour renverser des alliances, alors qu'avant, les Québécois et les Franco-Canadiens étaient des alliés naturels pour la défense du fait français au Canada. Eh bien là, ils sont devenus des ennemis. Parce que si effectivement on donnait davantage de droits aux francophones de la Colombie-Britannique, par exemple sur la question des écoles, ou si on donne davantage de droits aux francophones du Manitoba, bien ce faisant, on risque de donner davantage de droits aux anglophones du voilà. Québec. Et donc, ça a créé une drôle d'alliance entre les Anglo-Québécois et les Franco-Canadiens qui, ensemble, effectivement, se sont battus pour faire avancer les droits des minorités linguistiques et qui, ce faisant, ont fait reculer un peu le français au Québec. Mm-hmm. Ce que ça a créé aussi, c'est l'espèce de stratégie Québec-Manitoba. L'idée, c'est au Manitoba, on a une minorité francophone et une majorité anglophone. Au Québec, on a une minorité anglophone, une majorité francophone. Et donc, il faut donner plus de droits aux francophones du Manitoba. Et on va essayer de créer une espèce de calque entre le Manitoba et le Québec.
Non, ouais.
En inversant les deux composantes linguistiques. Et donc, à mesure que dans les années 1980, on va donner davantage de droits aux francophones du Manitoba, on va aussi en donner davantage aux anglo-québécois. Et cette politique-là, qui avait un but qui était politique et un peu machiavélique parce qu'elle visait à détruire le souverainisme québécois et détruire des alliés aussi, elle va être renforcée par les tribunaux dans les années 1970 et 80 en amenant effectivement cette interprétation-là qui est symétrique. Les francophones doivent être traités partout de la même façon. Les minorités doivent être traitées partout de la même façon. Et ce pourquoi plaide Éric Poirier dans son ouvrage, c'est pour une interprétation asymétrique. Les Anglo-Québécois ne jouissent pas des mêmes conditions, en fait, ne subissent pas plutôt les mêmes conditions de précarité que les Franco-Manitobains, les Franco-Albertains. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas les mettre sur un même pied d'égalité, ouais. Ne serait-ce qu'en termes de financement, qu'en termes de positionnement aussi international de la langue ou positionnement nord-américain de la langue. Et donc, il plaide effectivement pour qu'on cesse d'avoir une symétrie dans la façon ouais. dont on traite les minorités au Canada.
Mm-hmm. Donc, équité plutôt qu'égalité, peut-être.
Exact.
Mm-hmm. Alors, c'était Le piège des langues officielles. Troisième et dernier ouvrage, c'est celui de Thomas Leblanc. On parle de contes d'Acadie.
Oui, les contes d'Acadie, en fait, c'est assez sympathique. On est en 1963. L'archiviste Ronald Leblanc est appelé à venir faire du ménage dans un vieux presbytère au Nouveau-Brunswick. Et on lui dit, bah, viens donc faire un tour. Tout d'un coup, tu trouverais des choses intéressantes. Fait qu'il y va. Wow.
OK, je vois où ça s'en va. J'adore ça.
Il y va et bon, il trouve bien des bébelles inintéressantes, mais il trouve également un manuscrit écrit à la main de contes acadiens et il va effectivement le sauver de ce grand ménage qui aurait pu effectivement voir la destruction de ce manuscrit-là. Combien il y a de documents historiques précieux qui sont détruits parce que il n'y a pas cette vigilance-là d'un archiviste ou même effectivement d'un citoyen. C'est ça, si vous tombez dans les papiers de vos grands-parents, si vous tombez effectivement dans les papiers d'une association, des vieux papiers, avant de tout jeter, prenez le temps de faire le tri puis de vous dire, est-ce que ça laisse une trace qui vaudrait la peine d'être sauvegardée? Et c'est ce qu'a eu la présence d'esprit de faire Ronald Leblanc et de laisser ça dans un fond d'archives. Arrive un deuxième Ronald quelques décennies plus tard.
Ben voyons.
Ouais.
OK, c'est normal le livre des surprises, ça.
C'est une histoire de Ronald. Et cette fois-ci, c'est Ronald Labelle qui est spécialiste de la tradition acadienne et qui enseigne justement à l'Université de Moncton, non, qui a travaillé à l'Université de Moncton au Centre d'études acadiennes. Et lui, il va se dire, ben ces contes-là, il faut effectivement qu'on les sorte du centre d'archives, qu'on les édite, qu'on les mette en valeur. À l'époque, on ne savait pas trop il était de qui. Il y avait l'hypothèse qu'elle soit du journaliste acadien Thomas Leblanc, mais il va pousser plus loin la recherche et il va être capable de nous en offrir une version annotée et commentée. Donc, c'est un peu le lien que j'arrive à faire avec la question de la langue française. Ouais. C'est que l'ouvrage, en étant annoté, en ayant effectivement plusieurs notes qui nous permettent de mieux comprendre le contexte, a aussi un très chouette lexique à la fin qui nous permet de en fait, un glossaire qui nous permet de comprendre le parler des Acadiens. Ah. Un parler qui est très poétique à certains moments. Par exemple, festiner pour faire un festin.
Ah.
Donc, mettons, si je t'invite à festiner ou si ce soir on festine
J'adore.
Ensemble, c'est faire un festin, un machinateur pour quelqu'un qui fait des machinations, des craignants Dieu pour des chrétiens. Donc, ça illustre
les
aussi.
Craignants Dieu.
Aussi une façon dont tu es chrétien. Tu sais, quand tu es un craignant Dieu, c'est que tu es face à un Dieu qui fait peur. Et ces contes-là aussi, ben, ils sont plutôt ludiques. Il y a des sorciers sur la côte. Il y a également des questions d'amour, des questions d'ours-garou et de la vie, effectivement. Ouais, d'ours-garou, c'est quand même cool.
Wow! Oui, je suis vraiment fan de ton glossaire.
mais ça, c'est pas dans le glossaire, c'est dans les contes en eux-mêmes. Et donc, une des raisons pour lesquelles, à la vie de Ronald Labelle, les contes n'avaient pas encore été édités, c'est probablement parce que lorsque dans les années 1930, 40, 50, on avait tranquillement consigné effectivement ces contes-là. Eh bien, parce que Thomas Leblanc, lui, ben, il avait consigné plus de 1000 chansons traditionnelles, il ramassait ça autour de lui, il publiait dans le journal, puis il disait ben, « Si vous en avez des chansons, écrivez-moi, je veux tout consigner ça sur papier. » Il a probablement ramassé des contes dans ce contexte-là. Et ben, il aurait pu les publier à son époque, mais une des hypothèses qui est faite, c'est que ça n'a peut-être pas été publié parce que c'était jugé comme trop folichon. Tu sais, bon, des ours-garous, des histoires d'amour ou des sorciers. Une époque où on voulait renvoyer l'image d'Acadiens très croyants, très proches de la religion. Eh bien, c'est peut-être ce qui a fait que ces contes-là sont restés dans un grenier de presbytère pendant longtemps et que ce n'est que maintenant, effectivement, qu'ils sortent. Et moi, je les ai trouvés bien sympathiques, ces petits contes, là, notamment l'histoire de la grande demande d'Obéline d'Oirion, qui est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Et effectivement, ben, il va être question qu'il se marie. Le jeune homme est matelot et ben, il part faire un dernier voyage avant de revenir faire la grande demande. Et au retour, on lui apprend qu'il aurait épousé quelqu'un en Jamaïque puis qu'il l'aurait oublié. Fait que là, ben, fait, ben voyons, c'est impossible. Puis là, ben, effectivement, elle en pleure. Et de nombreuses années plus tard, eh bien, il y a un des matelots qui était sur le bateau qui lui apprend que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé et qui lui est resté fidèle, mais que la raison pour laquelle il n'est pas revenu, ben, vous lirez le livre pour le savoir.
Espèce! Je t'écoutais avec de grands yeux, je voulais savoir.
Je suis méchant, hein?
Mais tu m'as offert le mot festiné, alors je te pardonne.
Mais bref, tout ça pour dire que les contes d'Acadie de Thomas Leblanc, édités par Ronald Labelle, nous permettent effectivement de tomber dans ce simple plaisir de lire des contes, mais nous permettent aussi de redécouvrir la langue acadienne, la culture acadienne. Et comme c'est une édition qui est commentée, on a près de la moitié. C'est 5 petits contes, hein, fait que c'est pas si long que ça. Mais on a une première partie qui nous permet d'en savoir plus sur l'époque, d'en savoir plus sur le contexte. Et donc, c'est vraiment un chouette ouvrage, effectivement, pour en savoir plus sur la culture acadienne.
Contes d'Acadie, c'est génial. Je rappelle les titres pour les auditeurs intéressés. Délier la langue de Mireille El Chacar, tabarouette, je vais nous enrouler meilleur, c'est merveilleux. Mais je pense que c'est celui que je vais me procurer. Et de Éric Poirier, Le piège des langues officielles, Québec et minorités francophones dos à dos. Puis bien, le tout à fait fantastique dernier livre dont tu as parlé de Thomas Leblanc, Contes d'Acadie. Une édition critiquée par un Ronald parmi les Ronalds de l'histoire.
Exact.
Un grand merci Alex Delamarche.
C'est toujours un plaisir, Andréane.
C'est un plaisir qui est tout à fait partagé. On se reparle jeudi prochain. Merci. Encore. Quant à nous, c'est du côté du continent européen que l'on s'en va écouter la musique de Toucan. Toucan, c'est un titre de l'album Sirocco avec Le monde a changé que je vous fais entendre à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Beats. Yeah. J'ai passé par toutes les phases. Time with you is just amazing. Y'a aucune autre qui court autant dans ma tête. T'es le kilup dans mon navire. Celle qui veille pour pas que ça chavire. Celle qui me connaît vraiment, y'a je reconnais. T'as la passion et la patience. On a marché dans la malchance. Voyez de quoi en moi, même quand y'avait rien. Puisqu'on a vécu ça a aucun sens. Faut comme un autre, j'mets ça. J'en suis with me against the world, mais dans la mer.
Y'a plus personne dans la salle. J'te refais mon show si ça t'arrange. Dans la chambre ou dans le salon. On fait du pop, on fait du sale. J'graverai ton nom sur mes phalanges. Aucun recul sur tes avances, baby.
When times are getting cold, tu prends le poids de mon monde sur tes épaules. Car les spotlights, c'est infini le numéro. J'performe juste pour toi au after show. Peu importe la tempête, j'sais que t'es là. When times are getting cold.
Des noirs qui empiètent ton regard vide comme les bouteilles. Que toi et moi dans la pièce. Personne dans la salle. Que toi et moi sur le sofa. On ne fait nos chemins seuls. On est parti au sofa.
Don't you mind, je te vois dans une glace qui pourrait fondre demain. On est wild. Mon vaut mille images. Je te l'échange contre un dessin. Let's get out. C'est ride or die. J'ai des gros tas, le vin, les pieds sur terre. La tête dans les airs. Le cœur entre tes mains.
Je peux compter sur toi, même tard. La nuit me relève. When shit get down on me. C'est funny comment tu aurais défini. Parasé par l'autre vide.
Vous venez d'entendre After After Show, une chanson de Le Mind sur les ondes de Schiste 94.3. L'émission d'aujourd'hui tire pas mal à sa fin, mais on a encore le temps, oui, pour vous faire jouer Stroke It de Boyhood à Chérie J'arrive.
It's just some fun.
Et c'est sur Stroke It de Boyhood que se termine l'édition du jeudi de Chérie, j'arrive. Je vous invite à vous rendre ce soir à la Source de la Martinière dès 19h. Mais le show commence à 20h. C'est le temps d'une toune où vous pourrez entendre pour la modique somme de 10 ou 15 $ si vous achetez votre billet à la porte. Pretty Smile, Marc Étincelle et Sandra Contour. Soyez game, là. Soyez curieux. C'est le moment d'aller faire des découvertes musicales. Merci à Émilie Rioux pour cette chronique coup de théâtre. Entre le temps d'un coup de fil et à Alex Télamarche en littérature. On se retrouve demain avec Madame Desmeules au micro pour une autre édition de Chérie, j'arrive. Chérie, je suis arrivée?
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi.